a récupéré un jeune qui restait 2 ans au foyer. Et le jour où je suis arrivé, et ça m'avait relativement touché, il m'avait dit « ça fait 2 ans que je t'attends », alors qu'on ne s'était jamais vu. La Loire est belle. La Loire, il y a tout. La Loire, vous avez les rivières, vous avez les montagnes, vous avez tout, vous avez les gens.
Votre histoire, ils racontent leur métier. Le podcast du département de la Loire.
Des bois si denses qu'on les appelle noirs, un petit ruisseau qui coule à côté de la maison et des collines qui ressemblent déjà à des montagnes. C'est ici que vivent Serge et Sandrine, mais aussi les enfants et adolescents qu'ils accueillent et éduquent. Des rencontres, des déplacements, du temps passé à construire une relation, beaucoup d'humanité et surtout une vocation. Serge, assistant familial au département de la Loire, nous accueille aujourd'hui à son domicile à Saint-Just-en-Chevalet, dans le nord du département.
Bonjour Serge.
Sylvain.
Enchanté.
Enchanté.
Allez-y, rentrez.
Merci Serge de nous accueillir à votre domicile.
Merci à vous.
À Saint-Just-en-Chevalet, dans le nord de la Loire.
Chez nous, oui, c'est ce qu'on dit, le nord de la Loire.
Et on dit quoi d'autre, plus précisément ?
Les bois noirs.
Le bois noir.
Voilà, les bois noirs. Parce qu'on a la particularité ici, nous, c'est d'être entouré de forêts.
On a remarqué qu'il y avait beaucoup de forêts. Il y avait même des camions qui étaient bloqués
mal
sur la
garé.
Route.
Mal garés. Oui, c'est les particularités, les grumiers, les choses comme ça. Ouais.
Donc vous êtes assistant familial avec votre compagne ?
Sandrine qui est assistante familiale depuis 14-15 ans. Et moi, 10 ans.
10 ans. Ouais. Donc toujours au département ?
Toujours au département.
D'accord.
Tous les deux.
Et toujours ici, à votre domicile, à Saint-Just-en-Chevalet ?
Toujours. Enfin, on a commencé, avant on habitait dans la plaine, sur Balbigny. Il y a une dizaine d'années. Parce que ça fait 9 ans qu'on est là, nous. Donc on a fait une année sur Balbigny, j'avais une maison que j'ai vendue. Pour acheter plus grand, parce que d'accueillir 4 enfants, il faut un petit peu de place. Donc là, on a acheté un vieux moulin qu'on a rénové. Alors où il y a un peu plus d'un hectare de terrain, donc on est à l'aise. Ce qui nous a peut-être sauvés, même pour le confinement d'ailleurs, d'être au milieu des bois, parce qu'on était bien. On ne se sentait pas les trois, comme certains collègues ont pu le sentir en ville.
J'imagine. Voilà. La ville la plus proche ?
On est à 30 km de Rouen. Et c'est là où on travaille le plus régulièrement, enfin travail, où j'emmène les enfants. Voilà.
À l'école ?
Non, l'école c'est à Saint-Just. On a la chance à Saint-Just d'avoir 2 écoles primaires et 2 collèges. Donc jusqu'en 3e, les enfants restent au village. Et à partir de la seconde, ils sont réorientés ou Rouen, très souvent Rouen, mais ça peut être Boin-sur-Lignon aussi. Ça dépend un petit peu des spécificités, enfin des... ce qu'ils décident comme parcours scolaire après. Quoi. Voilà. Mais nous, tous ceux qu'on a accueillis jusqu'à maintenant, on finit sur Rouen.
Ils vont en car à Rouen ?
Voilà, c'est le car, ou moi qui les emmène, c'est un peu variable. Là, on en a une jeune qui est aujourd'hui au lycée, qui est en seconde, qui prend le car le lundi matin, je la ramène les vendredis soirs, et qui a demandé à être interne pour un peu moins de fatigue. Parce que c'est vrai que du fait qu'on est bien à la campagne, un petit peu isolé, mais on est isolé et relativement loin des campagnes. Donc, elle préfère rester un petit peu à l'internat. Et on la récupère des fois au milieu de semaine ou les vendredis soirs.
On peut parler de votre métier, donc assistant familial. Donc, vous accueillez des enfants
De 0 à 18 ans, en règle générale, pour faire simple, hein, qui sont placés à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est des jugements... pour des parents ou des problématiques, enfin des problématiques éducatives ou d'autres, enfin il n'y a pas tellement de...
Ou financières, parfois.
Ça peut être financier, mais il y a un jugement, il y a des placements, enfin voilà. Nous, on arrive plus tard, à partir du moment où il y a une décision d'un juge, que ce soit un placement administratif ou judiciaire. Voilà, ça peut être administratif parce que des parents peuvent faire la demande aussi d'aide. Parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils peuvent avoir des problèmes économiques, oui, comme vous dites. Et j'ai une histoire d'une collègue, une fois, c'était une maman qui vivait seule, qui qui se faisait opérer, qui avait un cancer, si je ne dis pas une bêtise, et qui demandait de l'aide. Donc son enfant a été placé, je crois, 6 mois, quelque chose comme ça, dans une famille d'accueil, parce que la maman ne pouvait pas s'en occuper, voilà.
Ah oui, 6 mois, donc c'est une période assez courte, finalement.
Ça peut être 6 mois, ça peut être un an. Il y a des jugements, en règle générale, chaque année, on renouvelle ce qu'on appelle le placement. Enfin, c'est le juge qui décide. Chaque année, les parents vont voir le juge, l'enfant va voir le juge, les éducateurs, enfin voilà, le service va au tribunal, et chaque année, c'est rediscuté en fonction de l'avancée des parents ou pas. Donc, on reconduit chaque année les placements.
Oui, donc ça veut dire qu'un enfant ne reste pas forcément 5 ans, 10 ans ou jusqu'à 18 ans avec vous.
Il peut rester une année, il peut rester 10 années, il peut rester 18 ans. Il n'y a pas de normes. Voilà. Nous, on a là, dans notre travail, je trouve que c'est un petit peu une chance quand même, on a des placements qui sont assez longs. On a une petite là qu'on a accueillie, enfin que Sandrine, quand elle a commencé à accueillir Emma, qui ça fait 14 ans. Elle a 16 ans aujourd'hui, ça se passe plutôt pas trop mal, voilà. Donc je dirais que c'est un confort pour nous, parce qu'on donne un mode éducatif, on essaye. On est des substituts de parents, si vous voulez. On est là pour aider un petit peu au développement de l'enfant, donc dans son quotidien en règle générale. Donc il y a des placements longs, il y a des placements courts. On a eu des placements... une petite jeune qui était restée, quoi, 5 semaines, qui avait fugué, qui était un peu plus compliqué. Il y a des placements qui matchent et d'autres qui ne matchent pas. On a aussi des foyers en parallèle, il n'y a pas que nous. Et il y a des enfants qui sont faits pour aller dans des familles d'accueil. Il y en a où ça ne matche pas dans les familles d'accueil, qui ne supportent pas ce qu'on appelle les conflits de loyauté, des choses comme ça avec la famille. C'est compliqué d'arriver dans une famille pour un enfant qui n'est pas la sienne.
Ça va être un bouleversement.
Bien sûr.
Donc, grosse responsabilité quand un enfant arrive.
Ouais.
Vous sentez,
on est investi, ouais. C'est une mission. Mais voilà, ça match ou pas au premier regard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des conflits dans le futur. Hein.
Bien sûr.
Mais l'enfant et nous, on le sent si on peut faire quelque chose ensemble, travailler ensemble ou pas. Voilà. Mais il y a des enfants qui sont vraiment dans la demande aussi, parce que on a récupéré un jeune qui restait 2 ans en foyer. Et le jour où je suis arrivé, et ça m'avait relativement touché, il m'avait dit : ça fait 2 ans que je t'attends, alors qu'on ne s'était jamais vu. Donc il ne savait pas du tout si j'allais matcher avec lui ou quoi que ce soit, mais voilà, il était dans cette attente d'être dans une famille pour avoir une forme de stabilité, enfin voilà, puisque le foyer c'est autre chose, hein, il faut des foyers, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il n'en faut pas, mais ce n'est pas la même prise en charge, à mon avis, ce n'est pas du tout la même prise en charge.
Oui, bien sûr. Et vous appelez comment alors, par votre prénom ?
Ouais, en général c'est Serge. Ouais. Alors on a une jeune qui est, pendant un temps m'appelait Papou, parce que dans son parcours elle n'avait pas de papa, pas de papa. On a tous un papa, mais on va dire non déclaré, donc elle était un petit peu en recherche d'identité d'un papa. Mais en général, nous, on demande que ça soit relativement par nos prénoms. Voilà, parce qu'on n'est pas les papas, on n'est pas les mamans.
Bien sûr.
Même si on fait un petit peu le rôle du papa-maman, mais voilà, je me sentirais non. Et je ne suis pas une nounou non plus. Une nounou, c'est un autre métier, c'est autre chose. Donc, moi, mon prénom, on me l'a donné, ça me va très bien, il ne m'appelle pas mon prénom, et je trouve ça très bien.
Comment est-ce que les enfants arrivent dans une famille ? Vous ne décidez pas, vous ?
Non. Ça peut être du placement d'urgence. Hein. C'est-à-dire, vous avez un appel à 9h du matin. On vous appelle, on dit, voilà, il y a eu un clash dans une famille X ou Y. Hein. Il faut absolument qu'on trouve une famille pour ce soir. Et vous êtes d'accord ? Alors, on vous explique grossièrement, voilà, tel enfant, tel âge, fille, garçon, voilà. Et ça s'arrête à peu près là. Et on vous dit, est-ce que vous êtes prêt à tenter le coup ou pas ? Alors, nous, on n'est pas trop pour ce type d'accueil. En règle générale, on essaye de commencer par quelques moments ensemble. C'est-à-dire qu'en général, on se rend au service. On se voit dans un bureau avec l'enfant, on arrive à discuter une petite heure. Après, on revient le lendemain ou le surlendemain, des choses comme ça, où on arrive à aller sortir dehors, boire un coca dans un bar, enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, voir un petit peu les liens, voir comment ça... Et puis, progressivement, l'enfant vient une après-midi à la maison, voilà, sur une quinzaine de jours, 3 semaines. Et puis, voilà, petit à petit, il vient passer une nuit, et puis c'est parti, quoi. Et on démarre. Mais on démarre tous à zéro, c'est une feuille blanche à chaque fois, hein. On sait pas du tout... Ce qui va être, parce que l'enfant, très souvent, change d'école, parce que on n'est pas forcément du même village, enfin, même très rarement, c'est même pas plus mal. Donc ça, c'est une page blanche. Et puis c'est les jours qui décident un petit peu de comment ça se passe derrière, quoi, en fonction de l'enfant. C'est lui qui, au début, un petit round d'observation, qu'on appelle chez nous la lune de miel. Voilà, où, au début, c'est toujours bien, parce qu'il y a un enfant qui sort des cris ou des soucis qu'il a pu avoir dans un foyer ou chez lui, Mais il arrive sur, dans un foyer plus ou moins calme. Souvent, c'est apaisant, mais après, ça peut être aussi un petit peu plus compliqué.
Vous gardez des liens avec des enfants qui sont...
Ouais.
Qui ont habité ici, ouais. Enfin, que vous avez suivi.
On a Andy, hein. Andy qui est parti la veille du confinement et qui revient très, très, très régulièrement à la maison. Je crois que c'est la semaine dernière où il est venu 5 jours. Il avait 15 jours de congé. Donc, il est venu 5 jours à la maison. Il n'y a pas d'obligation hein, à garder.
Bien sûr.
Parce que, voilà, chacun. Mais nous, avec Andy, ça a toujours matché. Enfin, ça a toujours bien marché. Il est resté une dizaine d'années chez nous. Et la majorité a fait qu'il est parti. Donc, on est assez contents parce qu'il est parti avec un appartement. Il est parti avec un travail. Donc, on peut le dire, assez fiers de ça.
Hein, oui, c'est en partie grâce à vous, grâce à votre travail, grâce à vous.
Bah, d'ailleurs, la semaine dernière, il a obtenu son code, donc il est tout heureux. Donc, voilà, on espère que la route va continuer pour lui, quoi. Ça se passe... Enfin, nous, on a un très, très bon lien avec lui, quoi.
Et donc, quand il réussit comme ça, quand un enfant réussit, vous êtes fiers, vous êtes satisfaits, vous vous dites, on a fait du bon boulot.
Alors, on n'est pas les seuls à faire le boulot.
Bien sûr.
Le minot, c'est lui aussi qui décide un petit peu de son parcours. On est là pour l'aider. Pour l'étayer, pour lui tendre les bras, les choses comme ça. Mais s'il ne se saisit pas de ça, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Alors après, il y a des soutiens psychologiques. Il y a plein de... Voilà, nous, on tend une main, c'est la main tendue. On tend une main, on est là pour essayer de le guider sur la bonne route. Après, il y a des enfants qui n'arrivent pas à s'en saisir parce que c'est trop compliqué familialement, et ainsi de suite. Faut pas rêver, c'est pas que des réussites. Moi, quand j'ai commencé la profession... J'ai commencé en me disant, je suis le sauveur, je vais tous les sauver. Je dirais, même 6 mois après, on comprend que ça ne va pas être possible parce que c'est très compliqué. Enfin, l'accueil d'un enfant, il faut bien comprendre que vous accueillez au sein de votre famille un enfant qui peut avoir... il peut y avoir eu des maltraitances ou pas, hein, je veux dire, mais... Ou un enfant qui ne comprend pas pourquoi il a haché aussi de ses parents, même s'il y a eu de la maltraitance. Parce que papa-maman reste papa-maman et qui ne va jamais, jamais s'insérer dans votre famille. Tout du moins le temps de l'accueil. Ça, c'est un petit peu c'est la plus grosse difficulté de notre métier. D'arriver à faire comprendre à l'enfant qu'on n'est pas ses parents et qu'on ne veut surtout pas prendre la place de ses parents. Même s'ils sont toxiques, parce que certains parents peuvent être toxiques. Voilà, nous, on est là vraiment pour l'aider.
Vous avez parlé de votre début dans ce métier. Vous disiez, je voulais être sauveur.
Non, je ne voulais surtout pas faire ce métier.
Ouais.
Voilà.
Alors qu'est-ce que vous faisiez avant ?
Alors moi j'avais une entreprise de maçonnerie. Voilà. Complètement.
Dans la région ?
Alors dans la plaine, ouais, à côté de Feur, pour que ça parle un peu plus de gens. J'avais une petite boîte, hein, j'avais un associé, enfin voilà, ça se passait pas trop mal. Mais j'en avais un petit peu marre de faire, alors c'est le paradoxe, de faire du social avec les quelques salariés qu'on avait. Voilà, je n'arrivais pas à les comprendre. En parallèle, j'étais éducateur sportif au sein d'un club, et où là, je prenais énormément de plaisir avec les minots de 13-14 ans que j'avais. Je prenais pratiquement même plus de plaisir à aller au foot avec ces jeunes et les aider qu'avec mes propres salariés qui, je commençais, alors je ne veux pas dire à plus les supporter parce que s'ils m'écoutent, ils vont me tordre le cou, mais voilà, où j'avais un peu de mal parce que, voilà, puis les difficultés d'une entreprise, enfin, qu'on peut avoir, hein, tout. Et ma femme, un jour, me dit « Mais Serge, t'as pas compris que t'étais fait pour ça ?» Alors, je pensais pas, et puis voilà, quoi.
Et quand vous parliez des enfants au foot, c'était au foot ?
Oui, ouais, au foot.
Vous dites les aider à quoi ?
À évoluer, voilà, mais même dans leur... voilà, j'avais des mômes de 13-14 ans, donc moi, j'étais le cool, parce qu'il y avait les parents qui les embêtaient un petit peu. Moi, j'étais le cool de service, c'était le... La bonne oreille, parce qu'ils parlaient un peu de leurs copines et leurs machins, et moi, ça me faisait plus ou moins rire. Alors que dès qu'ils sortaient du vestiaire un petit peu, les parents essayaient toujours de recadrer des choses comme ça. Moi, j'étais pas du tout là pour les recadrer, j'étais plus le grand frère, le confident ou je ne sais quoi. Donc, ça se passait, enfin, moi, j'adorais faire ça. J'adorais vraiment faire ça. Et voilà, et un jour, Sandrine m'a dit, mais c'est évident que tu devrais rentrer là-dedans. Alors, même si on a peser le pour et le contre, parce que travailler avec son épouse, ça peut être aussi compliqué. On peut dire que ça a été compliqué, parce que j'étais chef d'entreprise aussi, donc moi j'étais assez directif, assez... voilà, il fallait que ça avance, enfin voilà, et quand on arrive aussi dans ce monde-là, au contraire, il faut beaucoup de calme, de recul, d'analyse. Moi, j'étais peut-être un peu plus fonceur, donc j'ai été recadré un petit peu par mon épouse. Enfin, recadré, c'est peut-être fort, mais...
Il y a travail avec son conjoint, puis il y a aussi travail à la maison.
travailler. Voilà, mais ça va. C'est un petit peu l'ensemble.
Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça change?
Socialement, c'est assez. Enfin, ça peut être compliqué au début. Aujourd'hui, je dirais non parce que je suis quelqu'un, je pense, d'assez ouvert. Et puis, on a la chance dans notre profession d'avoir ce qu'on appelle les APP, les analyses pratiques professionnelles, enfin, des choses comme ça, où on fait des. On se rencontre entre collègues, on discute. Donc, on n'est pas isolé. Mais au début, on a vraiment le sentiment d'être seul. Moi, je sortais d'une entreprise. Enfin, j'avais une entreprise. Je me levais le matin, j'allais voir mes gars, j'ai rencontré des clients, enfin, tout un tas de choses. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus calme à ce niveau-là. On rencontre moins de gens. On a beaucoup de mal à sortir de notre métier. On est très souvent en lien avec des gens qui font la même profession que nous.
Que vous rencontrez à quelle occasion ?
Ça peut être... vous voyez, cet après-midi, là, j'ai un rendez-vous. Enfin, j'ai ce qu'on appelle une VM, une visite médiatisée pour une jeune qu'on a à la maison. Donc, je l'emmène au département. Elle va passer un certain temps avec sa maman. Pendant ce temps, moi, je reste sur Rouen. On a d'autres assistants familiaux qui sont là-bas. On arrive à aller boire un café ou des choses comme ça, ou à discuter. Mais on reste toujours dans ce lien travail, discuter travail que...
Oui.
Je ne sais pas. Enfin, vous, peut-être, dans votre profession, dès que vous en êtes sorti, enfin, vous allez parler d'autre chose. Voilà. Nous, on a beaucoup de mal. C'est un métier plus que prenant. C'est vraiment du 24-24, 365 jours par an. Et quand je le dis, c'est sincère. C'est pas... on est tout le temps au travail.
Alors, une journée type d'un assistant familial, ça ressemble à quoi ?
Je dirais, on commence par le lever. Ben voilà, faut préparer les enfants. Donc, si on a des petits en bas âge... Nous, on a accueilli un petit mamad il avait 8 mois, donc déjà la nuit, c'est se lever la nuit, changer les couches, comme une maman ou comme un papa. Hein, c'est exactement la même chose. Après, ça va être les emmener à l'école, ça va être, comme je vous disais tout à l'heure, je vais en récupérer une à l'école qui va aller voir sa maman. Voilà, ils ont des fois des soins. Là, on en a un petit qui est parti en ce qu'on appelle les soins Osiris, donc dans un petit groupe où voilà, il y a des pédopsychiatres, enfin des choses comme ça. Des rendez-vous professionnels de tout type. Et c'est assez difficile de dire une journée type. Il n'y a pas de journée type, justement. C'est un petit peu le matin, on se lève, on n'est pas persuadé de... Enfin, on a des rendez-vous, mais des fois, ça modifie dans la journée, tout simplement, parce que le service, il y a une modification, il y a un rendez-vous d'annulé ou un rendez-vous de reprogrammé. Enfin, il y a tout un tas de variants. On a des entretiens aussi avec les éducateurs, référents de l'enfant. Avec l'enfant, ou des fois en dehors de l'enfant, pour pouvoir discuter de lui, ou avec lui, ou sans lui, en fonction de... Voilà, il y a des ESS. Enfin, c'est assez difficile d'expliquer une journée de travail.
En tout cas, beaucoup de déplacements, j'imagine, devoir mobiliser de l'organisation. Voilà. Oui. Quelles sont les compétences, selon vous, qui sont importantes pour cette fonction d'assistant familial ?
Je ne sais pas si c'est une compétence, mais le jugement où on a tendance, on est dans une société aujourd'hui où on juge, on a un métier où au contraire, il ne faut surtout pas juger. Si vous commencez à être trop jugeant, on l'est tous, hein, on a tous nos idées, on peut avoir... j'entends combien de fois dans la rue les gens qui disent « Ah, mais t'as accueilli des enfants, oh là là, bichette, mais alors leurs parents, qu'est-ce qu'ils sont ?» Non, c'est des parents, des fois, qui peuvent être défaillants, mais il faut voir le parcours des parents. Voilà, il faut un peu d'empathie pour tout le monde. Sûrement pas juger, ça c'est la clé de notre métier. Si vous commencez à juger, changez vite de métier parce que vous n'êtes pas fait pour ça. Ça c'est clair et net. Après, il faut de la patience, de la passion. Patience parce que voilà, un enfant en crise, on en a eu un qui faisait des crises, 20, 30 crises, 40 crises par jour. Il faut garder ses nerfs, il faut arriver à essayer de l'apaiser, le calmer. C'est pas toujours évident. Il y a des fois, on a envie de faire le bouchon de champagne. On a envie de que tout saute. Mais voilà, c'est des enfants qui ont leurs difficultés. Aujourd'hui, on a une profession où les enfants sont de plus en plus carencés, ont de plus en plus de problèmes. Moi, je suis pas très vieux dans la boutique, hein, mais en 10 ans, je trouve que déjà, les accueils sont différents. C'est de plus en plus difficile à accueillir aujourd'hui. Il faut vraiment... Il y a vraiment de la casse aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est dû au Covid ou je ne sais quoi, hein, mais il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui carencés sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de...
D'un point de vue affectif ?
Psychique, un peu tout. Affectif aussi, parce qu'on l'a vu, hein, j'ai vu une étude il n'y a pas très longtemps qui a un petit peu rien à voir avec notre métier, mais sur le nombre de divorces, c'était impressionnant. Donc, je pense que pour moi, c'est dû au Covid, hein, pour une augmentation, donc... forcément, nous, quand vous avez des enfants où on vous dit où le gouvernement vous dit hop, on stoppe toutes les visites médiatisées parce qu'il y a couvre-feu, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. Il faut expliquer à un enfant qui n'a pas vu sa maman ou son papa depuis un mois, eh ben, tu ne le verras pas demain parce que ben, le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait plus de visites médiatisées pendant un certain temps. Et il y a des enfants qui, pendant 4, 5 mois, n'ont eu aucun lien avec leur famille. Et ben ça, il faut qu'ils puissent le digérer, ces minots. Quoi.
Qu'est-ce que vous aimez le plus aujourd'hui dans votre travail? Qu'est-ce qui vous guide aussi quotidiennement?
Ce qui me guide, c'est le sentiment. Alors ça va être peut-être prétentieux, mais de servir à quelque chose. J'avais une entreprise, j'avais des salariés, donc j'avais aussi l'impression de servir, ouais. Dans le sens que ben, je donnais un salaire, j'avais l'impression un petit peu de les aider. Mais ça, c'est incommensurable par rapport au métier qu'on fait aujourd'hui. Moi, quand je vois Andy, on en parlait tout à l'heure, qui a 20 ans aujourd'hui, qui vit bien, malgré le parcours qu'il a eu, qui est plutôt heureux dans sa vie, voilà, où il se développe à peu près, normalement, hein, si on peut appeler ça, et ben voilà, il y a une forme de réussite et une forme de, voilà, t'as servi à quelque chose, Serge. Si t'en as, vous savez, tout à l'heure, je vous disais, je vais tous les sauver. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus les pieds sur terre, donc j'ai la prétention de dire, ben voilà, celui-là, j'ai l'impression que ça en est sorti, et ceux qu'on a à la maison, j'ai l'impression que ça se passe pas trop mal non plus. Donc j'ai bon espoir pour eux, j'ai bon espoir, on sait pas ce que la vie réserve, mais je pense qu'ils ont leur chance quand même. Parce que il y avait eu une étude, hein, que des gens, des SDF, beaucoup venaient de familles d'accueil. Donc on se dit, waouh, comment ça se fait que les gens dans la rue aujourd'hui, ben ouais, parce que les mains tendues, elles n'ont pas toujours été tendues au bon moment. Et moi, j'essaye dans ma petite pratique quotidienne de... Voilà, alors je ne suis pas parfait, hein, loin de là, mais j'essaye vraiment, vraiment de tendre cette main et de les emmener sur une bonne route pour qu'ils aient une chance de s'en sortir.
Il y a un moment ou une expérience que vous retenez particulièrement dans votre carrière d'assistant familial qui vous a marqué?
Il y en a plein, mais vous savez, des fois, on se démotive, on se dit, oh, on n'y arrive pas, ben non, c'est trop compliqué. Et puis voilà, vous accueillez, il s'appelle Nathan, hein, vous accueillez Nathan, et puis le jour où vous le rencontrez, il vous dit, ça fait 2 ans que je t'attends. Et ben, vous reprenez un coup de pied aux fesses et c'est reparti. Et c'est quelque chose de... C'est impalpable, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point cette phrase, elle vous regonfle pour redémarrer, pour essayer de faire encore mieux. Parce que, comme je le dis souvent, hein, on n'est pas parfait, mais pour vraiment redémarrer ce métier, enfin redémarrer une nouvelle page avec un enfant, et il vous tend une main, il dit « aide-moi », et ben voilà, vous ne pouvez pas... Vous, en tant qu'adulte, essayez de vous rater. Voilà, faut y aller, quoi. Donc, on y va à fond. Et il n'y a pas de moment précis, mais il y a plein de moments. Y a, quand un petit vous prend par le cou, qui vous dit « je t'aime », voilà, ben, c'est parti, quoi.
Parlons un peu de votre lien avec le territoire, avec la Loire. Donc, vous êtes originaire de la Loire, c'est
ouais,
ça
ouais, oui.
Pas très loin, vous...
Ah, je suis né à Feur.
Feur.
Je suis né à Feur.
Ouais. D'accord. Donc, ligérien d'origine.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que vous appréciez dans le département?
Qu'est-ce que j'apprécie dans le département? Un peu tout. Enfin non, vraiment l'idée qu'il y a un peu de tout. Enfin bon, moi je suis de la plaine, je suis venu ici à Saint-Just, on va dire par accident, parce qu'on est tombé amoureux du coin, de la maison, des choses comme ça, mais après voilà, on est plus ou moins vallonné. Je suis pas quelqu'un qui est très neige, mais voilà, on rencontre la neige, on rencontre les bolets, on rencontre plein de choses. Vous allez dans la plaine, moi j'adore, on y allait il y a pas très longtemps, le château de la Roche. Il y a plein d'endroits merveilleux dans la Loire, Villeray, le Barrage, enfin voilà, on pourrait parler de tout. Et puis, une petite chose que j'aime bien aussi, c'est le chaudron, j'ai le sang vert. Donc, voilà,
vous y rendez occasionnellement?
Non, je suis abonné. Ouais.
Abonné, tous les 15 jours.
Ouais,
au minimum. Jours.
Ah oui, minimum. Et ce que je trouve intéressant d'ailleurs, pour parler de ça, c'est qu'il y a vraiment un brassage. Moi, je suis abonné Cop Nord. Mais voilà, il y a un brassage culturel, il y a un brassage de couleurs, il y a un brassage de sociétal. Vous avez des patrons, vous avez des chômeurs, vous avez tout là-bas. Et voilà, c'est la société, quoi. Et moi, c'est ce que j'aime, quoi, dans cette Loire. Il y a beaucoup d'entraide dans la Loire aussi. Ça va faire beaucoup de bruit. Parce que le voisin passe avec son tracteur, je ne sais pas si c'est un problème. Mais ouais, il est assez bruyant, son petit truc. Il y a beaucoup d'entraide, ouais, ici. Parce qu'on a beaucoup de, pour l'anecdote, des arbres qui tombent, la neige qui tombe. Ouais.
Donc pour les auditeurs, le tracteur du voisin passe pour aller enlever une voiture qui était bloquée sur la route.
Pour une anecdote, j'avais même un... Quand on est venu habiter là, il y a une dizaine d'années, un ancien, où on rentrait à pied parce qu'il y avait tellement de neige, et qu'il a dit oh, « mais ici, il faut toujours avoir une tronçonneuse dans la voiture, parce qu'il y a des arbres qui tombent, et voilà, c'est un petit peu la particularité du pays ici. Ouais. »
Et un ami veut venir s'installer dans la Loire, vous lui conseillez de venir ?
Ah ouais, bien sûr.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que la Loire est belle. La Loire, il y a tout. La Loire, il y a... vous avez les rivières, vous avez les montagnes, vous avez tout, vous avez les gens. Vous vous arrêtez... dans un village, vous discutez, enfin moi ça m'est arrivé mille et une fois, voilà, sans connaître, on discute avec les gens sont plus ou moins ouverts. Et il y a beaucoup de solidarité, on le voit aujourd'hui, alors avec l'Ukraine, on le voit au village, enfin voilà, toutes ces choses. Alors c'est national aussi, hein, je parle pas, mais dans la Loire, voilà, il se passe beaucoup de choses dans la Loire, voilà, il y a beaucoup de gens qui tendent les mains.
Ça se voit, ça se sent, oui. Merci Serge de nous avoir accueillis et merci pour l'échange. Merci aussi à Sandrine de nous avoir accueillis à Saint-Just en Chevalet.
Eh ben merci à vous.
Métier du social, profil administratif ou technique, le département de la Loire recrute chaque année plus de 200 nouveaux collaborateurs. Avec l'ambition de faire progresser chaque collaborateur dans ses compétences et son parcours, le département de la Loire porte fièrement les valeurs de solidarité, du sens de l'accueil et du service propre à son territoire et à sa vocation. Vous pouvez retrouver les offres d'emploi, d'autres podcasts ainsi que des vidéos métiers sur le site recrutement du département de la Loire, www.loire.fr/onrecrute. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, c'est sans doute que vous l'avez apprécié, alors pour en faire profiter à d'autres personnes qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à le partager maintenant à deux personnes autour de vous.